Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. Il s'appelle Edward Snowden, Julian Assange, Irène Frachon, Antoine Deltour ou Frances Haugen. Ce sont des lanceurs d'alerte. En leur nom et pour le bien public, ils ont dénoncé des programmes de surveillance massive de la part des États, des scandales financiers, fiscaux, sanitaires, environnementaux et l'ont payé très cher. Le prix de leur liberté, parfois, est certainement celui de leur tranquillité d'esprit. Alors que l'ensemble des pays européens doivent transcrire dans leur droit une directive européenne sur le statut de lanceur d'alerte, nous allons essayer de comprendre quelles protections sont possibles pour cette nouvelle vigie citoyenne. Avec nous en studio, Delphine Paulet-Panoussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université catholique de Lille. Vous avez contribué à un ouvrage collectif sur les lanceurs d'alerte. Vous êtes aussi formatrice sur le sujet à l'École nationale d'administration. Et puis en studio également, Flore Talamon. Bonjour.
Bonjour.
Vous signez avec Bruno Lott aux éditions Delcourt Lanceurs d'alerte, une bande dessinée à la fois très pédagogique sur comment lancer l'alerte, mais aussi très émouvante avec ces hommes et ces femmes qui ont tout risqué, parfois tout perdu pour dénoncer. Tout de suite, j'ai envie de commencer avec vous, Delphine Paulet-Panoussi, et vous demander, c'est un phénomène très nouveau, ces lanceurs d'alerte ?
Alors non, le phénomène n'est pas nouveau. Il trouve ses racines au 19e siècle, aux États-Unis. En 1863 est adoptée la première législation protectrice des lanceurs d'alerte, c'est le False Claim Act, qui visait à protéger finalement l'État fédéral des marchés frauduleux. Donc historiquement, le phénomène de l'alerte éthique est un phénomène anglo-saxon, d'abord américain, et ensuite il y a eu un regain d'intérêt pour l'alerte éthique suite à de nombreux scandales dans les années 70 aux États-Unis, le Watergate, le scandale des papiers du Pentagone. Donc on a une origine américaine qui n'est pas si récente que ça.
Et en Europe, je crois que ça a commencé au Royaume-Uni.
Tout à fait. C'est dans les années 90 que finalement le phénomène a traversé l'Atlantique. Et dans les années 90, en réalité, le Royaume-Uni a fait le choix ambitieux de consacrer pour la première fois une législation globale de protection des lanceurs d'alerte, puisqu'aux États-Unis, ce qui existait, c'était des protections sectorielles, c'est-à-dire par domaine d'alerte. Et là, en 1998, avec l'adoption du PIDA Act, le Royaume-Uni fait le choix d'une protection globale, c'est-à-dire de protéger finalement le lanceur d'alerte, quel que soit le domaine de son alerte.
Ça, c'est la notion juridique de lanceur d'alerte. Il y a aussi le nom lanceur d'alerte. Et Flore Talamon, c'est un nom qui est arrivé assez tard en France.
Oui, c'est le sociologue Chateau-Renaud qui l'a trouvé, disons, en 1999 et qui l'a écrit dans son livre « Les sombres précurseurs ». Et c'est vrai que c'est un terme qui met l'accent sur le rôle social que jouent ces personnes à ce moment-là. Alors que si on prend le terme espagnol « denunciante », « dénonciateur » ou le terme italien « indicatori » qui se traduit dans le langage commun comme « indique », voilà, c'est plus par rapport à ce qui se passe à partir de l'entreprise, ce qu'on prend à l'entreprise au fond.
On comprend bien qu'il a eu du mal à s'imposer ce lanceur d'alerte, Delphine Paulet-Panoussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe parce que les contre-pouvoirs, les corps intermédiaires ne font pas leur travail finalement ?
Oui, certainement. Je pense qu'à chaque fois, finalement, les États font le choix de législation protectrice des lanceurs d'alerte suite à un scandale. Alors, par exemple, lorsque Jérôme Cahuzac, un de nos ministres, a été accusé de fraude fiscale, eh bien, peu de temps après, il y a eu une loi qui est venue en France consacrer la possibilité d'une alerte dans le secteur, justement, de la fraude fiscale. Idem, quand on a Irène Frachon, donc ce médecin qui a dénoncé les effets négatifs du médicament, le Mediator, eh bien, en 2011, la France, en réaction, adopte une protection du lanceur d'alerte dans ce domaine. Donc effectivement, souvent les législations, pour ne pas dire systématiquement, c'était le cas également au Royaume-Uni, sont une réponse à finalement un défaut mis en lumière. Et donc, on se dit après coup, si on avait su, on aurait pu éviter cette situation.
On l'a vu ces dernières semaines, Frances Haugen, la lanceuse d'alerte américaine qui dénonce la politique de Facebook et ses algorithmes incapables de modérer les dérives extrémistes du débat politique, a fait une tournée assez inédite aux États-Unis et en Europe. Ça donne une idée de ce que peut être un lanceur d'alerte à l'avenir dans les 10 prochaines années, tellement professionnel.
Alors oui, depuis quelque temps, on connaît la protection qui est accordée aux lanceurs d'alerte et donc ils sont beaucoup mieux accompagnés que par le passé. Ils savent les risques qu'ils encourent et on le voit hein, d'ailleurs, cette ingénieure américaine est accompagnée de son avocat systématiquement. Mais effectivement, peut-être qu'à l'avenir, on aura ce genre de lanceurs d'alerte qui finalement alertent en conscience, c'est-à-dire en ayant bien conscience du risque qu'ils encourent et donc de la nécessité finalement de s'entourer. Mais pour une Frances Hogan, il y a aussi des milliers de lanceurs d'alerte qui vont dénoncer des choses finalement beaucoup moins sensationnelles, mais qui méritent pour autant également une protection. Mais c'est juste qu'ils seront certainement moins médiatisés parce que l'entreprise est moins connue et parce que peut-être ce qu'ils dénoncent a une portée moindre.
Bah justement, on va parler de ces simples citoyens qui dénoncent des scandales avec vous, Flore Talamon. Vous proposez dans votre bande dessinée toute une galerie de portraits de lanceurs et de lanceuses d'alerte. On est très très loin de Frances Hogan.
Oui, tout à fait. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Certains sont fonctionnaires, certains sont salariés, certains sont des citoyens qui observent des choses, par exemple comme la pollution par les pesticides. Et ils se retrouvent face à des faits qui les choquent, qui leur semblent contraires à la loi ou qui menacent l'intérêt général. Et donc, ce sont des personnes qui spontanément ont agi. Alors, en agissant, ils se sont mis dans des situations parfois inextricables. Et c'est ça, en fait, la raison de cette bande dessinée, hein, c'est que je lisais dans la presse, voilà, encore 2-3 ans, toutes les représailles dont étaient victimes des personnes qui avaient donc signalé des faits anormaux. Et je trouvais ça assez incroyable qu'ils se retrouvent, en fait, en général, eux-mêmes sur le banc des accusés.
On peut peut-être parler, justement, du premier portrait de lanceur d'alerte dans votre livre, Karim Ben Ali.
Oui, tout à fait. C'est un chauffeur routier par intérim à qui on demande de déverser sa cargaison de liquide chargé d'acide, puisqu'il travaille pour une centrale sidérurgique, déchirer ses l'Hormital. Et en fait, en le faisant, il obéit aux ordres, il trouve ça anormal, mais il va déverser ses cargaisons dans un crassien qui se trouve dans une forêt, donc en pleine nature. Il sait très bien que ça devrait être déversé dans une usine de retraitement. Et donc, en fait, choqué, il commence par mettre la vidéo de ce déversement sur les réseaux sociaux, sur son Facebook privé. Et en fait, en faisant ça, il ouvre en fait une espèce de boîte de Pandore qui va finir à une alerte publique où il a été obligé de donner son nom. Et finalement, Karim Ben Ali a perdu son travail, n'en a pas retrouvé pendant des années. Sa santé est extrêmement mauvaise parce qu'il a fait tous ces déversements sans aucune protection. Sa famille s'est délitée. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en fait au RSA à la suite de la dénonciation qu'il avait faite.
Il y a une loi en France qui s'appelle la loi Sapin 2 qui jusqu'à maintenant protégeait les lanceurs d'alerte, qui va être remplacée par cette nouvelle directive européenne transposée dans le droit français. On peut protéger par la loi les lanceurs d'alerte, Delphine Paulet-Panoussi?
Oui, la loi est là pour les protéger, mais on voit bien que la protection, elle est toujours a posteriori. C'est-à-dire que le statut de lanceur d'alerte, il est généralement reconnu à la suite finalement d'une mise en cause devant les tribunaux, d'actions par exemple pour violation du secret professionnel, d'actions en diffamation. Et c'est finalement au terme de ces procédures-là que la personne va être reconnue comme lanceur d'alerte. Et c'est pour ça que cette protection, il fallait la renforcer. Alors c'est ce qu'essaye de faire la loi Sapin, et puis c'est ce qu'essaye de faire encore plus cette proposition de loi qui a pour le moment été adoptée en première lecture le 17 novembre à l'Assemblée nationale, qui vise à transposer la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte.
On va en parler justement de cette transposition. Je vous propose tout d'abord d'écouter ce portrait. C'est quoi être lanceur d'alerte? Comment on le devient? Comment on le vit? Comment on s'en sort? Alice Rougeat est allée rencontrer Maxime Renaï. Il a dénoncé les fraudes, les malversations, les placements dans des paradis fiscaux sur l'île de Jersey. Super-héros, justicier, peut-être pas. Écoutez comment lui-même se définit.
On se considère un peu comme les musiciens sur le Titanic, même si le bateau coule, et ben autant quand même continuer de jouer jusqu'au bout.
Aujourd'hui, Maxime Renailly habite dans l'est de la France. Entouré de sa compagne et de sa famille dans sa région natale, il a su créer sur mesure son métier de lanceur d'alerte.
Tout à chacun a une mission dans sa vie. Moi, pour l'instant, je vois que l'investigation et former les gens aussi pour les aider à, je ne vais pas dire lever une armée de gens qui investiguent, mais en tout cas donner des outils à des gens pour mettre en lumière les dysfonctionnements, c'est ce qui m'anime énormément en ce moment.
Mais remontons 15 ans plus tôt. C'est là que commence sa carrière. Il travaille alors sur l'île de Jersey pour le cabinet d'avocats Mourant, au service de multinationales et d'État. Très vite, il est témoin de montages financiers frauduleux et de placements illégaux dans des paradis fiscaux. C'est le déclic.
Au départ, on a de la colère. Donc pour moi, la colère devait être remplacée par quelque chose de positif, une action au service du bien commun. Et donc c'était à l'époque me mettre en relation avec les services de l'État et plus particulièrement la DGSE, donc les services extérieurs du renseignement français.
Devenu informateur pour la DGSE, il découvre qu'il ne peut compter que sur lui-même et son agent qu'il rencontre une fois par mois.
Alors c'est un travail entre guillemets de grande solitude. Vous voyez votre officier traitant, c'est le fonctionnaire de la DGSE de façon régulière, voire très régulière. C'est celui qui va traiter les informations que vous récoltez pour lui, soit sur commande, qu'on appelle donc la liste de courses, soit les informations que vous rapportez en plus de la liste de courses. Donc on n'est jamais seul, mais il y a quand même une forme de solitude effectivement d'être dans un pays étranger avec le risque de vous faire attraper.
Surtout que ça a bien failli lui arriver lorsque des services antifraude de plusieurs États contrôlent des clients du cabinet un peu partout en Europe. Dans l'entreprise, c'est la panique. Maxime Renailly est soupçonné d'être la taupe.
Là, il y a eu du stress. Effectivement, là, j'ai eu peur parce que je savais qu'on pouvait remonter jusqu'à moi. J'ai été interrogé plusieurs fois par mes supérieurs. J'avais des documents physiques à l'appartement. Donc tout de suite, quand je suis rentré, je les ai détruits déjà en les mouillant, puis ensuite en les déchiquetant. Voilà, il y a eu ce moment de stress, de se dire que ça pouvait mal finir pour moi.
Un stress légitime parce que sur l'île de Jersey, les règlements de compte peuvent aboutir au pire.
J'ai eu un ami qui était quelqu'un avec qui aussi je travaillais, qui était un expat comme moi, qu'on a retrouvé en bas d'une falaise.
Malgré cela, et tout en menant sa double vie, Maxime Renailly avoue ne jamais s'être laissé envahir par la peur.
Je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, c'est la meilleure façon de se protéger. C'est-à-dire il faut être irréprochable. À partir du moment où moi je considère que ce que je fais est irréprochable, on risque pas grand-chose. En tout cas, on peut dormir sur ses deux oreilles.
Selon lui, en tout cas, ce ne sont pas les différentes législations nationales et européennes qui permettent une véritable protection.
C'est vraiment un vernis, c'est un coup de marketing de la part des États et de la France, mais aussi même de l'Europe, malheureusement. Parce que quand vous êtes sur le terrain, bah, ça ne vous empêche pas du tout d'avoir des procès pour diffamation. Alors je rappelle, la diffamation, ce n'est pas le fait de dire quelque chose de faux, c'est le fait de dire quelque chose qui est vrai et qui peut nuire à la réputation de la personne. Sur le terrain, je vois que ces lois ne me protègent de rien du tout, ou bien mes partenaires lanceurs d'alerte. Ce qui les protège ou ce qui nous protège, en réalité, c'est plus, je dirais, l'opinion publique et certains médias qui permettent clairement de nous protéger à 99%. La loi sur la protection des lanceurs d'alerte n'est clairement pas suffisante. Moi, je m'en sors bien, j'ai pas trop de problèmes, mais les autres, ils ont clairement des grosses difficultés qui peuvent paraître insurmontables.
Aujourd'hui, il a décidé de quitter le monde de la finance pour rejoindre celui des associations, syndicats et ONG. L'alerte, il continue de la donner, parfois via des médias, d'autres fois via sa plateforme en ligne lanceurdalerte.com. Et depuis peu, il est aussi formateur.
Partager un petit peu cette expérience et ces méthodologies, ces techniques d'investigation avec un très grand public, pour les utiliser comme un outil de lutte, mais de façon très pacifiste, et d'utiliser ça comme un levier dans les différents conflits qu'on peut rencontrer.
Malgré les révélations répétées sur les paradis fiscaux, WikiLeaks, Panama Papers, Pandora Papers, rien ne bouge. Mais Maxime Renailly ne se décourage pas, il est convaincu que ces alertes font avancer le débat sur la fraude fiscale et que de plus en plus de citoyens ont conscience du problème.
Maxime Renailly, un portrait qu'on peut aussi retrouver dans la bande dessinée Lanceur d'alerte aux éditions Delcourt. Delphine Pollet-Panoussi, vous l'avez entendu, ce lanceur d'alerte dit que finalement la loi ne peut pas vraiment le protéger. Est-ce que la nouvelle loi va mieux protéger les lanceurs d'alerte?
Alors, la protection, quand on se place du côté du lanceur d'alerte, elle est forcément insuffisante puisqu'elle est a posteriori. Donc, on va prendre un certain nombre de mesures pour les accompagner. Après, le législateur, en réalité, que ce soit la loi Sapin ou là, la loi de transposition, il a essayé de concilier, évidemment, la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi l'intérêt des structures et des entreprises, des administrations qui sont mises en cause, puisqu'il arrive également que l'alerte, eh bien, ne soit pas fondée. Il y a aussi beaucoup de gens qui estiment être des lanceurs d'alerte et qui pourraient révéler publiquement des choses qui ne se révéleraient pas des alertes. Donc, c'est pour ça qu'il faut un texte mesuré. Il y a une volonté de conciliation.
Quoi elle va plus loin, justement, cette nouvelle loi ? Et est-ce que ça fait de la France un très bon exemple européen ?
Alors oui, de toute façon, la directive elle-même était déjà inspirée de la loi Sapin, qui était la législation la plus protectrice au monde. Tout simplement parce que, généralement, dans les différents pays, le lanceur d'alerte, il est cantonné à la sphère professionnelle. La France, dès 2016, fait le choix d'une définition indépendante de cette relation de travail. Et donc, c'est toute personne physique, finalement, qui révèle des agissements qui se révèlent contraires à l'intérêt général. Donc ça, c'est extrêmement protecteur et je dirais que c'est unique au monde.
Je crois qu'il y avait un problème dans la loi Sapin, c'était la nécessité de passer par sa hiérarchie au sein de l'entreprise pour dénoncer un problème. Et ça, je crois que c'est revu.
La transposition de la directive vient consacrer finalement un choix totalement libre pour le lanceur d'alerte, c'est-à-dire en fonction de la nature de l'alerte et de son intensité, c'est lui qui choisit s'il peut finalement saisir le référent alerte interne ou si les faits sont tels qu'il n'y aura aucune réponse en interne et qu'il faut directement saisir une autorité extérieure.
Et sur l'aide juridique, dès le départ, je crois qu'il y a un guichet unique qui est créé auprès du défenseur des droits.
C'est ça. Le défenseur des droits ne peut pas être l'autorité de l'alerte. Il y a eu une censure du Conseil constitutionnel en 2016, mais il a une mission d'orientation du lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il va justement orienter la personne vers l'autorité compétente, que ce soit le procureur, une inspection, etc., qui pourra traiter l'alerte et mettre fin aux dysfonctionnements constatés.
Ça, c'est pour la protection juridique, mais on le voit bien, les lanceurs d'alerte souffrent aussi beaucoup de problèmes financiers, psychologiques. Ouais. Et Flore Talamon, et c'est là qu'intervient la Maison des lanceurs d'alerte.
Oui, précisons que la Maison des lanceurs d'alerte, c'est une association qui est née en 2017, juste après la loi Sapin 2, et qui regroupe une trentaine d'associations. Alors, elle joue plusieurs rôles. D'abord aussi, un rôle juridique. Elle a des juristes, et au fond, un des premiers conseils, c'est si vous pensez avoir quelque chose à dénoncer, le conseil, c'est de prendre contact avec eux. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est qu'ils ont une aide technique. Ils ont une plateforme protégée qui permet de leur écrire sans divulguer son identité. Ils ont aussi la capacité d'accorder des fonds, de procurer une aide psychologique et donc de soutenir des gens qui sont souvent dans la détresse quand ils se rendent compte qu'ils sont partis pour alerter des choses et qu'ils deviennent des accusés.
Finalement, il y a un seul domaine qui échappe complètement aux lanceurs d'alerte, Delphine Paulet-Panoussi, c'est le secret défense.
Oui, tout à fait. Et ça, la loi Sapin n'a rien changé sur ce point, la transposition de la directive non plus. Le secret défense est complètement exclu du domaine de l'alerte. On ne peut pas être protégé. Ce qui veut dire que, par exemple, si on avait eu un Edward Snowden français, alors même qu'il y a la loi Sapin, il n'aurait pas pu être protégé.
Pour conclure, Delphine Paulet-Panoussi, qu'est-ce que ça dit, ce phénomène des lanceurs d'alerte sur l'état de notre démocratie ?
Ça veut dire que la façon dont on conçoit la démocratie a besoin d'être renouvelée. Je pense que c'est vraiment... l'action des lanceurs d'alerte contribue au renouveau démocratique, contribue évidemment à renforcer la liberté d'expression. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme protège le droit d'alerte comme étant une composante de la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression, c'est le droit d'informer, mais c'est également le droit d'être informé, et ça, c'est extrêmement important. Et donc, on voit bien qu'on a encore des gardiens de la démocratie qui sont là et qui sont parfois prêts à prendre des risques au nom de l'intérêt de tous. Donc, ça reste positif sur la condition humaine.
Lanceur d'alerte sur Accent d'Europe avec Delphine Paulet-Panoussi en duplex, avec France Bleu Nord et Flore Talamon en studio, à la réalisation Apolline Verlon et Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées.